la guerre. Ça n'a rien à faire avec la vie de la foi. Donc, mais tu demandes, je pense, puisqu'il y a ce terme, les assemblées de Dieu, n'est-ce pas? Donc, et un point que j'ai pas encore assez soulevé, c'est le fait, la vie d'assemblée, la vie d'église, inclut 7 jours à 24 heures par semaine. Mais les réunions d'église, c'est limité à moins. Et oui, parce qu'on ne peut pas dire que toujours nous sommes en réunion d'église. C'est pour ça que l'apôtre Paul, au chapitre 11, il argumente. Pourquoi vous mangez du pain et du vin de cette façon, comme si c'était de la simple nourriture? Est-ce que vous n'avez pas des maisons pour pouvoir manger? Donc il dit, la scène, prendre la scène, ce n'est pas simplement manger comme on fait autrement dans la vie, mais c'est quelque chose de particulier. Donc il fait donc cette distinction entre vie d'église et réunion d'église. Ça, il faut distinguer. Mais lorsqu'on insiste sur le fait que, surtout selon la première à Timothée, nous sommes en fait toujours dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, la vie d'assemblée, la vie d'église est toujours. Alors, ça nous aide à ne pas faire une séparation entre une vie spirituelle et une vie séculaire pendant la semaine. Mais la crainte de vouloir faire cette séparation ne devrait pas nous induire à l'erreur pour dire nous sommes toujours en réunion d'église. Donc il faut distinguer mais et quand même voir l'unité. Puisque les femmes doivent se couvrir la tête pour prier et prophétiser, dans quel contexte? Alors, hors d'église. Selon ma compréhension, la femme doit se taire dans l'assemblée. Quelle est la limite ou le critère pour déterminer si c'est une réunion d'assemblée? Je crois qu'on a essayé de répondre, même que dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. Dans quel cadre ce verset de 1 Corinthiens 11:5 s'applique-t-il? Comment le mettre en parallèle avec 1 Corinthiens 14:34? Oui, ça on a vu. Pour les femmes célibataires ou veuves, les versets 1 Corinthiens 14:35 semblent restrictifs. Que se fasse-t-il pour elles? Alors, j'ai dit qu'il y a le principe que la femme va d'abord chez son mari, mais si elle n'a pas de mari, qu'elle aille chez d'autres, mais peut-être tout d'abord aussi chez ceux qui sont les plus proches. La théorie des citations s'appuie sur 1 Corinthiens 7, 1 à 2. Notamment au sujet des choses. Il y a des bonnes raisons de rechercher où sont leurs questions. Ne serait-ce pas quand même le cas en 1 Corinthiens 14? Eh bien, celui qui tient à la théorie de citation doit quand même avouer que, par exemple, en 1 Corinthiens 7, on distingue facilement, ou assez facilement, qu'il s'agit ici de quelque chose que les Corinthiens demandent, et l'apôtre Paul donne des réponses. Mais en général, lorsque quelqu'un lit 1 Corinthiens 14 et aussi chapitre 11, on n'arriverait pas simplement en lisant, en étudiant, à la conclusion qu'il s'agit ici d'une citation. Et en plus, ça devient des longues textes qui seraient cités. Alors là, on devrait plutôt s'attendre, il me semble, a plus d'indications dans le texte qu'il s'agit ici d'une citation. Et finalement, il y a le danger, n'est-ce pas? On pourrait finalement même dire, dans la conversation du Seigneur avec Nicodème en Jean 3, le verset 16, c'est simplement une citation de Nicodème. Et n'est-ce pas, finalement, s'il ne faut pas vraiment des indications plus claires dans le texte, on peut finalement l'appliquer à n'importe quel texte. Alors, il y a ici donc un point de départ qui est bien dangereux. Et dans le texte de 1 Corinthiens 14, on n'a nullement cette indication que là, il commence à citer. N'est-ce pas? Et on s'attendrait aussi plus, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais il dit que vos femmes se taisent dans les assemblées. Alors, ça fait plutôt que l'apôtre s'adresse aux Corinthiens, au lieu de citer les Corinthiens. 2. Comment comprendre la prière et la prophétie publique des femmes dans 1 Corinthiens 11, 5? Dans 1 Corinthiens 10, il est déjà question de réunion d'assemblée. Il n'y a pas de rupture de sujet. Alors, il est juste, au chapitre 10, il s'agit déjà de la scène, la table du Seigneur, n'est-ce pas? Au verset 29. Non, attends, je prends. Je vois plus vite en allemand. 14 à 21, à 22. Mais après, il reprend le sujet lorsqu'on va à la boucherie et lorsqu'on est invité chez des incrédules. Donc, il change de scène. Et le chapitre 11 commence sans qu'il y ait de nouveau une indication. Maintenant, nous sommes en assemblée ou en réunion. Et seulement au verset 18, où il parle de nouveau de la scène, il prend le terme « en assemblée », en église. Je ne vois quand même pas pourquoi une femme ne peut pas exprimer à haute voix sa louange à Dieu pendant un culte, par exemple en priant ou en proposant un chant. N'est-ce pas? Il y a effectivement la difficulté de se demander pourquoi Dieu aurait donné ce commandement. Mais la même difficulté reste dans l'Ancien Testament. Pourquoi c'était toujours des hommes qui faisaient les sacrifices? Pourquoi pas les filles d'Aaron? Est-ce que c'était parce que c'était l'époque? Mais ça, c'était déjà 1500 ans avant la première aux Corinthiens. Donc c'était aussi une tout à fait autre époque. Donc, on peut se demander pourquoi. Et il me semble, peut-être on trouve la solution en ceci. Il y a parfois des commandements qui demandent purement une obéissance vis-à-vis de Dieu. Dans l'Ancien Testament, pour donner un exemple, pourquoi Dieu aurait choisi le sabbat, le septième jour, comme jour de repos? Pourquoi n'aurait pas pu prendre le deuxième jour ou le cinquième? Et c'est difficile. Bien sûr, on peut dire oui, puisque Dieu il a arrêté ses œuvres après 6 jours. Mais il aurait pu faire en un jour, puisqu'il est tout puissant. Mais pourquoi il a fait comme ça? Parce qu'il a voulu. Et pourquoi il a voulu que le peuple d'Israël observe le sabbat? Parce qu'il a voulu. Et dans l'histoire sainte, de l'Ancien Testament, on voit souvent comme justement le commandement du sabbat était donc le terrain où on ne voulait plus obéir à Dieu. Puisqu'on ne voyait pas absolument le sens, pourquoi pas faire des commerces lorsqu'on a des bonnes possibilités le sabbat, livre de Néhémie. Alors, il me semble que la question peut être comprise en ceci. Dieu a donné donc l'autorité pour guider à l'homme. Et peut-être il a voulu montrer avec ça que dans l'Église, donc cette autorité se distingue et se voit en respectant que Dieu limite donc les réunions d'église pour l'activité de l'homme. Donc, il me semble que c'est un commandement du Seigneur. L'apôtre Paul dit, il y a des choses où on doit simplement comprendre Dieu a voulu comme ça et pas autrement. Moi, j'aurais fait autrement. Je ressens différemment. Mais au lieu de voir toujours ça, il faut voir la grande liberté que Dieu nous a donnée. Il a donné une certaine forme, mais il y a plus de liberté dans cette forme. Et il faut découvrir cette liberté. Si Gao se taire, ne pas chanter, point d'interrogation. Alors, j'ai expliqué que particulièrement en 1 Corinthiens 14, il s'agit de prophétiser, de parler en langue, un après l'autre, prophétiser un après l'autre, et il s'agit de s'exprimer solo. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, on voit qu'en foule, les femmes ont aussi dit « Amen », Néhémie 8. Tout le peuple, pas tous les hommes, tout le peuple disait « Amen ». Et on voit aussi comme les femmes chantent d'un côté et répondent aux hommes, Exode 15. Donc il faut chanter bien, alto et soprano. On a souvent dit que les femmes se sont exprimées, Hulda, Déborah, etc., seulement en temps de crise. Ne sommes-nous pas justement en temps de crise? Oui! Beaucoup. Alors, avancez, vous, mères en Israël. Nous avons tellement besoin. Et ça commence avec le mari. Encouragez le mari, donnez le matin, par exemple, une parole qui va lui donner un impulse pour toute la journée. Mais aussi les hommes, la femme. Et ça commence ici, et ça s'élarge sur beaucoup plus de plans. Mais j'aimerais ajouter, et si nous n'étions pas dans un temps de crise, est-ce que les femmes devraient plus faire ce service? Eh bien, je dirais, aussi lorsque nous ne serions pas en crise. Et il faut dire, Hulda, oui, un temps de crise, mais il y aurait eu, par exemple, un Jérémie, un Sophonie, un Habacuc. Et ça, c'était des hommes, c'était pas des... Mais pourquoi le roi va vers, envoie la délégation à cette femme? Il n'est pas dit. Et pourquoi la femme reçoit la parole de l'Éternel pour le dire? Elle aurait pu dire, oui, mais vous êtes bien, envoyez-moi des enfants. Et la délégation du roi qu'elle aille vers Jérémie, non? Donc, elle avait son âge et nous avons donc besoin tout particulièrement des femmes dans un temps de crise, mais aussi lorsque nous avons passé la crise. Si les femmes présentées sont plus douées, les femmes présentes sont plus douées ou vivant vivent plus près du Seigneur que les frères. Est-ce juste se priver de la révélation de Dieu par une femme? C'est une très bonne question. Ça rend la chose dramatique dans des cas particuliers. Mais au lieu de tourner ça, alors que ces femmes utilisent toutes les possibilités hors de réunion d'église pour stimuler les hommes à prendre la position d'homme dans l'église, alors il me semble là les femmes doivent vraiment faire un service pour mobiliser les hommes. Pardon?
C'est dans ces cas-là que souvent les frères les empêchent.
Oui, alors, c'est catastrophe. Et quoi faire là? Nous avons la prière, nous avons... Mais la vie n'est pas facile. Si les femmes ne prient pas en assemblée, alors pourquoi devraient-elles se couvrir la tête? Est-ce parce qu'elles sont en présence d'hommes et que cela indique leur soumission? Très bonne question. Mais non, en 1 Corinthiens 11, nous avons ce terme à cause des anges. Donc, même quand les hommes ne sont pas présents, il y a toujours des anges qui s'intéressent à nous. Et c'est un aspect beaucoup oublié, la présence des anges et leur désir d'apprendre à travers de l'Église. Éphésiens 3, il est clairement dit que l'Église, la pensée de l'Église, était un mystère caché en Dieu dès l'éternité et seulement après l'Ancien Testament, à l'époque des apôtres, Dieu a révélé ce plan. Et maintenant, les anges, et l'apôtre Paul mentionne donc les principautés, donc aussi les premiers anges, ils apprennent la sagesse de Dieu à travers de l'Église. Donc nous sommes observés, et en 1 Pierre 1, nous avons là le terme que, en rapport avec le salut annoncé par l'Évangile, les anges veulent regarder dedans. Et le terme grec signifie même qu'ils font de longs coups pour voir bien. Donc nous sommes vraiment plus intéressants que nous avons toujours pensé. Et si nous serions aussi intéressants pour la société autour de nous comme pour les anges, ça serait quelque chose. Alors, il s'agit là, en 1 Corinthiens 11, du sujet de position homme-femme et du sujet de l'autorité. Et il faut bien penser que le sujet de l'autorité jouait un rôle fondamental dans le monde des anges. Parce que la chute d'une grande partie d'anges a commencé par le fait que Satan, il était un chérubin ou un, voulait plus respecter la supériorité et l'autorité de Dieu. Donc, il a combattu contre l'autorité de Dieu. Et alors, les anges sont intéressés. Est-ce que, dans l'Église, où des hommes et des femmes, après la croix de Golgotha, sont délivrés par le sang de Christ, est-ce qu'ils reconnaissent le sujet de l'autorité ou pas? Alors, ça donne peut-être une autre vue de l'importance. Et peut-être aujourd'hui, les anges, en plus, ils se demandent dans une époque postmoderne, que fait l'Église avec cette question? Mais lorsqu'il s'agit d'autorité, il faut encore souligner, autorité a été souvent perverti dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, et nous sommes appelés de montrer de nouveau qu'est-ce que c'est autorité, qu'est-ce que c'est être des guides dans le peuple de Dieu. Un guide dans le peuple de Dieu, un conducteur, c'est pas quelqu'un qui fait comme ça avec les autres, mais c'est quelqu'un qui dit qui avance par son exemple et encourage les autres à suivre. C'est d'ailleurs dans la guerre des six jours, c'était une des raisons clés pour cette victoire incroyable que les officiers, ils n'ont jamais envoyé les soldats à avancer, ils ont toujours dit « Aharai, suivez-moi ». Et ils sont allés et leur exemple était tellement motivant. Alors, ça montre autorité, c'est pas quelque chose de négatif et qui, de pression, etc. Mais c'est quelque chose de positif. Et dans une époque post-moderne, nous devrions plus montrer cet aspect positif de stimulation. Et cela, c'est pas, je me base pas sur la guerre des six jours, mais 1 Pierre 5. Les anciens qui sont appelés à être des exemples du troupeau. Qui ne règnent pas sur leur terrain. Si les femmes doivent se taire, rester en silence, est-il juste qu'elles chantent ou disent Amen? Oui, parce que de toute façon, ce n'est pas s'exprimer solo. N'y a-t-il pas là une contradiction, car elles ne restent pas en silence? Oui, à première vue, mais j'ai montré comme l'argumentation de l'apôtre Paul suit exactement, même parfois, les termes de l'argumentation des rabbins d'autrefois. Mais j'ai dit, il donne des autres raisons. Et là, on a jamais compris que, dans la foule, les femmes ne devraient pas s'exprimer.
C'est fini. Amen, c'est un bruit,
chanter,
c'est un bruit.
Donc, chanter,
c'est
transmettre un message. Oui, mais. Vraiment. Mais lorsque. N'est-ce pas? Et tout au début, j'ai montré tout un tas de passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et finalement, il me semble qu'il y a sûrement eu quelques passages qui étaient surprenants. Et finalement, on doit. Mettre tout ça dans un ensemble comme un puzzle. Et lorsqu'il s'agit de l'exprimer pour l'expression d'une femme, on voit déjà dans l'Ancien Testament que dans la foule, c'était jamais un problème pour chanter et pour dire Amen. Mais pour s'exprimer solo dans un culte, là, oui. Et aussi en synagogue. Mais bien sûr, nous ne sommes pas là pour avoir maintenant tous les mêmes vues, mais nous sommes là pour échanger. Oui, échanger, c'est peut-être beaucoup dit. Mais prenons ça comme un début pour continuer à échanger et que nous tenions ensemble pour trouver le chemin du Seigneur ensemble et pas pour se taper dessus et pour se mépriser l'un l'autre. Et l'Église, c'est une communauté de croyants qui où les conflits sont programmés. Oui, parce que 1 Corinthiens 12:12, dans un seul corps, Dieu a uni des Juifs et des Grecs. Deux cultures qui à l'époque ne pouvaient pas se comprendre, et des hommes libres et des esclaves. Et dans d'autres passages, on a encore d'autres, des barbares, des Scythes, un groupe particulier. Les Russes sont des descendants, en partie. Alors, les conflits étaient programmés, mais pourquoi Dieu a fait cette unité avec des conflits programmés? Pour montrer au monde qu'il est possible de surmonter des conflits avec l'aide de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous avons fait avec cette chance de prouver qu'on peut résoudre les problèmes? Il y a des... Comment dire, Verein? Oui, des associations qui souvent savent mieux concilier des différences. Et nous sommes appelés à montrer que nous connaissons le prince de la paix déjà maintenant.